Voilà, je suis heureux d'être avec vous cet après-midi encore pour partager quelques bonnes nouvelles tirées de l'Évangile, de la parole de Dieu. J'aimerais introduire ma réflexion par une lecture d'un texte que j'ai eu l'occasion d'évoquer déjà ce matin, mais que nous n'avons pas lu, que nous allons lire maintenant dans Matthieu, au chapitre 25, et on lira du verset 31 à 46. Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Ce passage nous rapporte un enseignement que Jésus lui-même a apporté. Et ce sont les paroles de Jésus que nous allons lire et entendre. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront alors assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ? Ou nu et t'avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes, à la vie éternelle. » Amen. Ce texte est très riche d'enseignements. Il nous enseigne par exemple que Jésus doit revenir. Eh oui, bien des hommes sur cette terre oublient cette grande vérité. Jésus est venu une première fois, mais il va revenir. Il nous enseigne aussi qu'il y a une vie après la mort. Tout ne s'arrête pas avec la mort physique. Il nous enseigne également qu'il n'y a que deux endroits où nous pouvons aller après notre mort physique, soit en enfer, soit au paradis. Et donc par conséquent, et c'est un enseignement de Jésus, c'est pour ça que c'est important d'y prêter attention, il nous rappelle ce texte que le purgatoire n'existe pas, il n'y a pas de troisième endroit. Le purgatoire est une invention des hommes et de la religion. Par voie de fait, il n'y a pas non plus de réincarnation, ni en animal, ni en autre être humain. Non, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ce texte nous montre aussi que notre éternité se joue pendant notre vie terrestre. C'est la façon dont je vis cette vie présente qui va déterminer mon éternité. Et c'est pourquoi ma première préoccupation sur cette terre devrait être de préparer mon éternité. Parce que l'éternité, c'est un petit peu plus long que la vie terrestre. Non ? Ben oui. Parce que pour les plus vigoureux d'entre nous, nous atteindrons 80, 100. La médecine nous promet bientôt de dépasser presque tous allègrement les 110 ou les 120. Mais qu'est-ce que c'est à l'échelle de l'éternité? Figurez-vous que lorsque vous aurez passé des milliards de milliards de milliards de milliards d'années dans l'éternité, il y en aura toujours autant devant. Hein? Et je pense que quand on réalise ça, il vaut mieux penser qu'on va passer l'éternité au paradis qu'en enfer. Hein? Seulement voilà, comment est-ce que l'on peut se préparer à cette éternité? Il y a un verset dans Actes 16, 31 qui est très clair. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » C'est par grâce que nous pouvons être sauvés. C'est par la foi que l'homme peut être sauvé de la perspective éternelle de l'enfer. La foi, c'est un élément qui a trois composantes. La croyance, la confiance et l'obéissance. Voilà ce que Dieu attend de nous pour que nous puissions échapper à l'enfer. Croyance, confiance, obéissance. La croyance, croire que Jésus a existé, ça c'est pas trop dur parce que même les historiens les plus athées l'attestent. Croire que Jésus a existé, croire qu'il est le Fils de Dieu, c'est un peu plus dur, qu'il est mort à la croix et qu'à la croix, il a porté nos péchés, il a porté mes péchés. Afin que mes péchés puissent être pardonnés, afin que je n'ai plus à être châtié, moi, pour mes péchés. Il a été puni à ma place. Voilà ce que je dois croire. Mais ce n'est pas suffisant, parce que ce que je vous ai dit, là, les démons le croient aussi. Enfin, ils croient que Jésus a existé, ils croient qu'il est mort à la croix, ils croient qu'il est le Fils de Dieu, ils savent qu'il s'est chargé des péchés de l'humanité à la croix. La différence, c'est que les démons ne se confient pas en Jésus. Ils n'ont pas cette confiance ni cette obéissance. Et pour que la vie éternelle soit mon partage, il faut que je me confie dans l'œuvre de Jésus à la croix, que je me confie dans l'enseignement de Jésus-Christ et que j'accepte de lui obéir. Et la première chose que Dieu demanda à l'homme qui veut s'approcher de lui de faire, c'est de se repentir, c'est-à-dire de reconnaître son péché, de le confesser, de l'apporter à Jésus pour en recevoir le pardon et la délivrance. Et si je fais cela, que se passe-t-il? Mais si je m'approche de Dieu au travers de Jésus, en confessant mes péchés, en me confiant dans l'œuvre de la croix, en étant déterminé à lui obéir, alors la Bible me dit que mes péchés sont pardonnés. Le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. Et alors, à ce moment-là, étant pardonné, l'obstacle qui existait entre Dieu et moi est levé, et je peux m'approcher de Dieu, et Dieu peut s'approcher de moi, et remplir mon cœur de son amour, de sa vie, de sa puissance et de sa grâce. Et si je suis rempli de l'amour de Dieu, si je suis rempli de l'amour de Christ, alors je vais avoir envie de venir en aide à mon prochain. Je vais avoir de la compassion pour ceux qui sont dans la détresse, dans la difficulté, et tout naturellement, je vais aller donner à manger à ceux qui ont faim, je vais aller visiter ceux qui sont dans la détresse, je vais écouter ceux qui sont dans la difficulté, je vais visiter celui qui est malade, je vais faire ce que Jésus décrit dans cet enseignement. Je vais tout à l'heure vous donner l'occasion de faire le point pour savoir où vous en êtes. Mais j'aimerais, dans le temps qui m'est donné, vous raconter quelques expériences que j'ai pu faire en étant attentif à mon prochain, en essayant de venir en aide à ceux qui sont dans la difficulté ou à ceux qui sont les plus fragiles dans cette société. J'ai fait une rencontre décisive avec Dieu à l'âge de 17 ans, alors que j'écoutais le témoignage d'un pasteur. J'avais eu jusqu'à cet âge-là une religion, mais une religion au travers de laquelle Dieu m'était apparu comme quelqu'un de lointain et un petit peu comme un père fouettard, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Pour moi, Dieu, c'était celui qui avait créé le monde, c'est sûr, mais c'était celui surtout qui me surveillait, et j'avais intérêt à filer droit, sinon il m'aurait au tournant. Hein. Donc j'avais plutôt peur de Dieu, et je ne pensais pas que Dieu pouvait agir dans ma vie d'une façon personnelle et profonde. Et puis un jour, j'ai entendu le témoignage d'un pasteur, et ce pasteur racontait que, avant d'être pasteur, et même avant d'être chrétien, il était kleptomane. Vous savez ce que c'est un kleptomane, hein ? C'est une maladie, hein ? Un kleptomane, il a beau avoir 15 montres à la maison, s'il en voit une qui traîne, hop, dans la poche. Voilà. Et cet homme souffrait de cette kleptomanie, parce qu'il réalisait bien que c'était mal, mais c'était plus fort que lui. Il avait vu des médecins, des psychiatres, des traitements, rien n'y faisait. Et puis un jour, on lui a parlé du message libérateur de l'Évangile. Et on lui a dit non seulement que Jésus pouvait lui pardonner, mais qu'il pouvait le libérer. Et cet homme a dit, moi je veux croire cela. Il a placé sa confiance en Jésus-Christ. Et ce que les médecins, ce que les traitements n'avaient jamais réussi à faire, Jésus l'a fait. Il a été délivré de sa kleptomanie. Et moi j'écoutais ça, je dis, mais c'est pas possible. Moi qui croyais que Dieu était lointain, moi qui croyais que Dieu ne pouvait pas agir dans nos vies, je me suis dit, mais c'est pas possible, Dieu peut se manifester comme ça dans la vie des gens et les changer, les transformer. Et je me suis dit, mais si Dieu est comme ça, moi je veux le connaître comme ça. Et je veux qu'il agisse aussi dans ma vie. Et en même temps que j'avais cette prière intérieure, il y avait comme une voix qui me disait, mais qui es-tu, toi, pour que Dieu fasse quelque chose pour toi ? Et tout d'un coup, j'ai pris conscience que j'étais un pécheur et que je n'étais pas digne de m'approcher de Dieu et que je n'étais pas digne de recevoir quelque chose de sa part. Et j'ai été poussé à apporter mon péché à Jésus, à lui confesser mon péché, et à dire, Seigneur, je t'apporte mon péché, moi je peux rien faire, mais je veux croire maintenant que Jésus me purifie, et je veux surtout qu'il agisse dans ma vie et qu'il me change. Et à ce moment-là, j'ai été rempli d'une joie extraordinaire, cette assurance que mes péchés étaient pardonnés. C'est formidable, hein? C'est comme si on redevenait un petit bébé qui vient de naître. Là, il n'y a plus de péché, il n'y a plus rien. Ah, j'avais envie de sauter jusqu'au plafond, d'embrasser tout le monde, tellement j'étais heureux de connaître, d'expérimenter ce pardon de mes péchés. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, étant rempli de l'amour de Dieu, j'ai eu tout de suite envie de répandre cet amour autour de moi. Donc, dans l'église où j'étais, je me suis occupé des enfants pour leur apporter l'enseignement biblique. Et puis, quelques mois après, je suis parti dans une colonie de vacances pour être moniteur. C'est comme ça que j'ai pris le virus aussi des colonies de vacances, parce que j'ai pu voir là ce que Dieu était capable de faire dans une colonie au milieu des enfants. Donc vous savez la colonie, comment ça se passe, hein, pendant la journée, les enfants reçoivent pendant un temps bien déterminé l'enseignement de la parole de Dieu, et puis tout le reste de la journée, bien, on leur donne des jeux, des occasions de découvrir du sport, etc. Et puis le soir, les animateurs se retrouvent pour faire un petit peu le point sur ce qu'a été la journée et préparer la journée du lendemain. Et on était un soir comme ça, les moniteurs, les animateurs, à faire le point de la journée. Tout d'un coup, on entend du bruit dans les chambres des enfants. On se dit, ça y est, ils sont encore en train de faire le bazar. Vous savez ce que c'est, hein ? Alors, on va dans les chambres. Et effectivement, il y avait du bruit, il y avait de l'agitation, mais ce n'était pas du tout ce qu'on pensait. Pendant que nous étions à notre réunion d'animateurs, le Saint-Esprit était en train de s'occuper des enfants. Et les enfants étaient dans les chambres, vous savez ce qu'ils faisaient ? Ils étaient en train de pleurer sur leurs péchés et en train de confesser leurs péchés. Mais ce n'était pas des prières d'adultes. Vous savez, quelquefois, nous les adultes, on fait des prières avec des belles phrases, parce qu'on veut que les autres disent « Oh, il prie bien celui-là hein. » Non, ça n'arrive jamais à Rennes, mais dans d'autres églises, quelquefois, ça arrive. Hein. Et là, ces enfants, leur prière, elle venait de leur tripe. Ils pleuraient « Seigneur, pardon, parce que j'ai menti à la maîtresse !» « Seigneur, pardon, parce que j'ai volé un bonbon à l'épicerie !» Conviction de péché, ils confessaient leur péché. Et au fur et à mesure qu'ils confessaient leur péché, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils se mettaient à parler en d'autres langues. Et dès que l'un était baptisé, ils se mettaient à prier pour son petit copain. Et le petit copain vivait la même chose. Et on voyait le Saint-Esprit comme ça se répandre comme une traînée de poudre de l'un à l'autre. Et nous, on était spectateurs. On n'avait rien provoqué, d'abord on n'était pas là. Hein? Et on a vu l'action puissante du Saint-Esprit. Je peux vous dire que le lendemain, le climat était complètement changé dans la colo. Plus besoin de faire de discipline. Les enfants étaient transformés, changés. Vous voulez que vos enfants changent? Envoyez-les en colo. Et priez pour eux pendant qu'ils sont en colo. Hein? Je vous dis, j'ai été moniteur à l'école du dimanche. J'ai jamais vu l'action de Dieu comme dans une colo. Pourquoi? Parce qu'à l'école du dimanche, je ne dis pas qu'il faut arrêter l'école du dimanche, mais on les a qu'une heure dans la semaine. Et tout au long de la semaine, ils ont l'affluence des petits copains, l'école, la télé. Hein. Pendant la colonie, eh bien, ils sont en milieu protégé. Et pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, ils n'ont pas ces influences extérieures. Et le Saint-Esprit peut faire cette œuvre profonde dans les cœurs. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué et qui a fait de moi un fervent acteur du monde des colonies et des centres de vacances. Et puis, donc, quelques temps après, j'ai poursuivi mes études et j'ai fait mon service militaire dans la coopération. Et je suis allé à Ouagadougou, qui était alors la capitale de la Haute-Volta, qui est devenue le Burkina Faso. Et j'ai travaillé là dans la mission du missionnaire M. Dupré. Et j'ai pu voir là aussi quelque chose qui m'a interpellé. C'est que M. Dupré, au Burkina Faso, il n'a pas fait que prêcher la parole de Dieu, mais il a ouvert des dispensaires, il a ouvert des pouponnières, il a ouvert des écoles, il a ouvert des collèges. Et en fait, toute cette action sociale, médicale, etc., a démultiplié l'impact de l'Évangile. Et actuellement, le Burkina Faso est un des pays d'Afrique qui a le plus fort taux de chrétiens évangéliques. Et tout le monde se reconnaît et reconnaît que cela est dû à l'action sociale que le missionnaire Dupré a conduite dans ce pays. Et j'ai été frappé par la façon dont le Seigneur se servait de ses outils pour toucher les cœurs. J'étais enseignant là-bas et j'avais des élèves. Et certains des élèves étaient internes parce qu'ils venaient de l'autre bout du pays. Ils arrivaient là en septembre, par exemple, et ils ne pouvaient retourner chez eux que pendant les fêtes de Noël. Et certains, on recevait bien sûr tout public, donc on avait des enfants qui venaient de milieux musulmans. Et ces enfants, on leur annonçait la parole de Dieu, et certains de ces enfants se convertissaient. Ils faisaient de réelles expériences profondes avec Dieu. Et on en avait certains qui, venant de milieux musulmans, lorsqu'ils retournaient chez leurs parents pendant les fêtes de Noël, leur disaient « Ben, maintenant, on va plus à la mosquée parce qu'on a rencontré Jésus, on a connu l'amour de Dieu et nos vies ont été transformées. » Leurs parents, bien sûr, étaient en colère. Ils leur disaient « Écoutez, si tu ne renies pas ta nouvelle foi chrétienne, là, nous, on t'accepte plus à la maison. » Figurez-vous que ces enfants tenaient ferme. Certains nous ont avoué, parce que les parents les ayant chassés, ils retournaient au collège pendant les vacances. Certains nous ont avoué qu'ils avaient été battus à coups de chaîne de vélo pour renier leur foi. Et ils avaient tenu ferme. Quelle leçon des enfants. Vous ne croyez pas que les enfants peuvent se convertir? Moi j'y crois. Hein. Les enfants peuvent se convertir et faire des expériences réel. Et ces enfants, la mort dans l'âme, préféraient quitter leur famille qu'ils aimaient et revenir au collège protestant, mais ne pas renier leur foi, parce qu'ils avaient expérimenté la puissance et l'amour de Jésus. Après, donc, je suis rentré en France, j'ai fait mes études bibliques, Je me suis retrouvé pasteur, d'abord à Melun, puis à Orléans. Et là, le Seigneur a conduit les choses à Orléans pour que je sois, pour que je rentre en prison. Non pas pour avoir fait quelques méfaits, mais comme aumônier adjoint. Et j'ai pu pénétrer le monde de la prison et annoncer la parole de Dieu en prison. J'ai pu recevoir des détenus pendant leur permission à la maison. J'ai eu aussi l'occasion de recevoir un toxicomane pendant plusieurs mois à la maison pour l'aider à s'en sortir. Et par toutes ces choses-là, le Seigneur préparait un petit peu mon cœur à ce qu'allait être le travail qui m'attendait. Parce qu'effectivement, quelques mois plus tard, alors que j'étais pasteur à Orléans, le pasteur de Mulhouse m'appelle. Et à Mulhouse, il y avait un foyer qui s'appelait SOS Jeunes, où il y avait 100 jeunes, 120 jeunes en difficulté sociale, des sortants de prison, des SDF, des alcooliques, des gens qui avaient des problèmes de toxicomanie. Donc un foyer évangélique qui avait été créé par le pasteur Lormier. Et donc un jour, le pasteur de Mulhouse m'appelle à Orléans en me disant « Écoute René, le directeur vient de quitter le centre de Mulhouse, on a besoin de quelqu'un pour le remplacer et on a pensé à toi. » Je dis « C'est bien, ça, c'est gentil, mais moi je suis pasteur à Orléans et je suis bien à Orléans, je m'y trouve bien, l'œuvre avance bien. » Et puis à l'époque j'étais tout jeune, 30 ans, je n'avais aucune expérience du milieu social, donc j'ai remercié ce pasteur de penser à moi, mais je n'ai pas pensé donner suite à sa proposition. Et puis quelques jours plus tard, il me rappelle en disant « René, est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as pris ta décision ?» J'ai dit « Ben non, moi je n'ai pas pris de décision. Pour moi, ce n'est pas le chemin que je dois prendre. » Et il me dit « Nous, nous sommes convaincus, cherche la face du Seigneur et tu verras. » Alors ça m'interpelle. C'était un dimanche matin, son appel téléphonique. Après avoir reçu son appel, je vais au culte, et pendant le culte, un don spirituel. Vous savez, de ces dons spirituels qui vous transpercent, parce que vous savez qu'au travers de ce don, c'est Dieu qui vous parle et qui s'adresse à vous. Personne ne savait rien dans l'Église, bien sûr, et ce don spirituel disait, on t'a proposé quelque chose, toi, dans ton cœur, tu as pensé dire non, mais moi, ton Dieu, je te demande de dire oui. Aïe. Je dis, Seigneur, moi je veux bien aller là où tu veux, mais je veux vraiment avoir une conviction profonde. J'avais 30 ans à l'époque, j'étais tout jeune, je vous disais, un centre de 120 jeunes en difficulté, c'est quand même, on y réfléchit à deux fois avant d'y aller. Hein. Je dis, Seigneur, moi je veux bien, mais je veux être convaincu. Parce que si tu m'accompagnes, ça va mieux déjà. Et quelques jours après, je suis dans Orléans, au volant de ma voiture, dans un boulevard à quatre voies, et je me fais doubler par un camion. Ça, c'est déjà pas banal. Hein. Ensuite, le camion me fait une queue de poisson, m'obligeant à freiner. Et qu'est-ce que je vois sur ce camion? À l'arrière du camion, trois lignes. Première ligne, déménagement. Deuxième ligne, Orléans. Troisième ligne, tiens, il y en a qui connaissent l'histoire déjà. Mulhouse, ben, je peux vous dire, ça fait un choc. Déménagement, Orléans, Mulhouse. Et puis il y a eu d'autres choses qui ont fait qu'à un moment donné, je suis arrivé à avoir cette conviction que je devais y aller. Donc je suis arrivé en 1985 dans ce centre de 120 jeunes en difficulté sociale. Et je peux vous dire que j'en ai vu de toutes les couleurs. Vous imaginez bien, avec ce genre de population. J'ai reçu des coups de couteau, j'ai été agressé à coups de couteau, j'ai dû faire face à un pyromane qui mettait le feu un petit peu partout dans les poubelles. Avant qu'on le trouve, ça a été, je ne vous dis pas le nombre de nuits blanches que j'ai passées. J'ai dû faire face un jour, le commissariat m'appelle, « Monsieur Sanchez, on a reçu un appel anonyme, quelqu'un aurait déposé une bombe dans votre établissement. Qu'est-ce que vous faites? Vous évacuez ou pas? C'est vous qui prenez la décision. » J'ai dit « D'accord. » D'accord, c'est moi qui prends la décision. Je me suis dit, on était en plein hiver, je me suis dit, ça c'est un petit rigolo. Il a envie de nous voir tous sortir de l'immeuble en plein hiver, nous frigorifier dehors. Je ne vais pas lui donner cette joie. Hein. J'ai dit, non, je n'évacue pas. Mais en même temps que je disais ça, ça faisait boum boum là-dedans. Parce que je dis, s'il y avait vraiment une bombe, bonjour. Hein. Alors, il n'y avait pas de bombe. mais ça a été un moment assez difficile à passer. Là. Donc la police est venue et a passé tout l'établissement au peigne fin. Donc j'en ai vu toutes les couleurs, mais j'ai vu aussi la gloire de Dieu. J'ai vu aussi l'action du Seigneur parmi ces jeunes en difficulté. Tous ne se sont pas convertis, mais bien des jeunes ont fait des expériences avec le Seigneur là. D'autres se sont convertis plus tard et on l'a appris plus tard. Je me souviens de ce jeune qui est arrivé un jour au centre SOS Jeunes avec un certificat de l'hôpital psychiatrique sur lequel il était écrit en gros « irrécupérable pour la société ». On se demande comment des médecins peuvent mettre ça sur un certificat qu'ils remettent à l'intéressé. Hein, parce que, bon, à la limite, qu'il y ait ça inscrit dans son dossier médical ou que les médecins se le disent entre eux, d'accord. Mais quand on donne ça à une personne et qu'on lui dit « ça, c'est votre dossier », vous imaginez après ce que le jeune peut avoir comme avenir, ou penser avoir comme avenir. Hein. Irrécupérable pour la société. Il est venu au centre, on l'a accueilli, on l'a hébergé, on l'a entouré, on lui a parlé du message de l'Évangile. Il a été délivré de la drogue, il a été délivré de l'alcool, il a été délivré de la cigarette. Ce gosse qui était un gosse des rues a pu passer un diplôme de CAP, il a pu devenir plombier. Il était irrécupérable aux yeux des hommes, mais pas irrécupérable aux yeux de Dieu, à notre Dieu pour lequel tout est possible. Et puis il y en a un autre dont je me souviens, lui aussi nous en a fait voir les 400 coups, donc à tel point qu'à un moment donné, après lui avoir donné les avertissements, on a dû le renvoyer de l'établissement. Hein, parce que ce n'est pas parce qu'on était un centre évangélique qu'on acceptait tout, on avait des règles, on avait une discipline. Et si quelqu'un enfreignait le règlement, au bout d'un ou deux avertissements, eh bien, il était renvoyé. Alors, avant d'être renvoyé, bien sûr, on lui avait, comme aux autres, annoncé le message de l'Évangile, mais il avait fermé son cœur. C'était un jeune aussi qui avait des problèmes de toxicomanie. Donc, il est renvoyé, il prend son baluchon, il fait du stop. Qui le prend en stop? Un chrétien. On l'a su parce qu'il est venu nous en parler après. Hein. Un chrétien, et qui lui témoigne tout le long du voyage parce qu'il voulait aller jusqu'à Paris. Mais c'est pas possible, je quitte un centre évangélique là, et puis je tombe encore sur un chrétien qui me bat les oreilles là, pendant tout le trajet jusqu'à Paris. Il arrive à Paris, il prend le métro, et puis il descend à une station de métro, je ne sais plus laquelle, et là, il y a quelqu'un qui pointe le doigt vers lui et qui lui dit « Toi, Dieu te cherche ». Il a craqué. il a été convaincu hein, par l'Esprit de Dieu, que Dieu le cherchait. Comme quoi, vous voyez, quelquefois, Dieu peut nous mettre dans la tête des idées un petit peu bizarres, mais heureusement que ce chrétien a eu l'audace hein, de faire ce que le Saint-Esprit lui a demandé, et de tendre le doigt vers ce jeune et de lui dire « Toi, Dieu te cherche ». Et Dieu l'a trouvé. Ce jeune s'est converti, il a été délivré de la drogue lui aussi, il est retourné dans sa ville, dans le Nord, et il a monté une association de lutte contre la toxicomanie. Voilà, je ne vais pas tout vous raconter parce que le temps passe, mais je suis resté comme ça 15 ans à SOS Jeunes à Mulhouse. Et puis c'est en 2001 que j'ai quitté Mulhouse pour aller au centre d'accueil Les Térébintes à Parigny-l'Évêque. Alors là, les choses ne se sont pas passées de la même façon. En fait, il se trouvait que vers la fin des années 90, ma mère a déclenché une maladie d'Alzheimer. Donc elle vivait à la maison. Et la maladie d'Alzheimer se développant, il devenait de plus en plus difficile pour moi de m'absenter pour des conventions ou autres, parce que ma mère nécessitait une surveillance, ou une présence en tout cas continue. Et j'étais en train de chercher la solution quand le pasteur d'Ausserès m'a appelé pour me demander si je ne voulais pas prendre sa succession au centre des Térébintes à Parigny-l'Évêque. Et j'ai vu comme un éclair qu'en fait c'était la solution à mon problème, par rapport à ma maman. Puisqu'en allant à Parigny-l'Évêque, j'amenais ma mère avec moi, je pouvais la mettre dans la maison de retraite, mais en fait, elle ne s'apercevait pas qu'elle était en maison de retraite. Elle est décédée maintenant, mais pour elle, elle n'a jamais été en maison de retraite. Elle a accompagné son fils, qui était directeur de maison de retraite. Et c'est comme ça qu'elle a pu très bien accepter le fait d'aller en maison de retraite. Donc j'ai pris la direction de la maison de retraite et du centre de vacances des Térébintes en 2001, et c'est là que j'ai vu tout l'intérêt qu'il y avait d'avoir des maisons de retraite évangéliques. Alors, des centres de vacances, j'en étais convaincu, je vous rappelle pas pourquoi, hein, par rapport aux expériences que j'avais faites en colo, mais les maisons de retraite évangéliques, c'était un monde un petit peu nouveau pour moi, et là, j'ai découvert l'importance que ces centres avaient pour les chrétiens qui avaient vécu toute leur vie spirituel, avec des cultes, avec des réunions de prière, etc. Et la maison de retraite, les maisons de retraite évangéliques permettent aux personnes âgées issues de nos assemblées de poursuivre leur foi, de continuer à vivre leur foi, puisque nous avons dans nos maisons, aussi bien à l'Opérette qu'à Albi, qu'à Clermont-Ferrand, qu'à Paris-Miévêque, ou qu'à Morteau-Coulibœuf, l'ancienne maison de Garneteau, nous avons des cultes tous les dimanches, on rend grâce à table, on fait une lecture biblique, on a des temps d'études bibliques dans la semaine, et les personnes âgées peuvent ainsi continuer à vivre leur foi jusqu'au bout. Et puis ce qui est aussi important, c'est qu'au moment du départ, ces personnes peuvent être assistées par les aides-soignantes ou les infirmières. Je me rappelle avec émotion de cette personne âgée qui, son état de santé s'était dégradé subitement. L'aide-soignante va la voir, elle appelle le médecin vient et dit qu'il faut appeler d'urgence l'ambulance. Et en attendant l'ambulance, l'aide-soignante qui était chrétienne a pu la tenir par la main, prier avec elle, et elle a quitté cette terre en priant, en tenant la main de l'aide-soignante. C'était un moment particulièrement émouvant, mais c'était important pour elle, hein, qu'elle ne soit pas seule à ce moment-là. Et puis l'autre intérêt aussi de nos maisons de retraite, c'est que nous ne recevons pas que des personnes qui viennent de nos églises évangéliques, nous recevons aussi des personnes qui viennent d'autres milieux ou qui ne sont pas croyantes du tout. Et je me souviens là d'une autre personne qui était quelqu'un qui avait peur de mourir. Et voilà qu'à un moment donné, sa respiration devient de plus en plus difficile. Même chose, on appelle le médecin vient, il faut appeler les urgences, il faut l'hospitaliser. Et cette fois-ci, c'est l'infirmière qui est là. Et cette infirmière, voyant son angoisse, va lui rappeler le message libérateur de l'Évangile. Et cet homme, in extremis, avant de partir à l'hôpital, va donner sa vie à Jésus et va expérimenter le salut. Hein? Voilà, donc nous aidons les personnes âgées qui viennent de nos milieux à continuer à vivre leur foi jusqu'au bout, et puis nous permettons à d'autres de découvrir le message libérateur de l'Évangile. Et pour ça, bien sûr, nous avons besoin de personnel chrétien, nous avons besoin que des jeunes se forment dans des carrières d'aides-soignantes, d'infirmières, de médecins, de psychologues, sachant aussi que dans une maison de retraite, ben, il faut des cuisiniers, il faut des comptables, il faut des secrétaires, il faut des directeurs, même ça peut servir. Hein. Donc je vous engage, vous qui êtes jeunes, et même vous qui êtes moins jeunes, parce qu'on peut toujours bifurquer dans sa vie professionnelle. Hein. On n'est pas obligé, si on a commencé par être... Moi, j'ai commencé par être enseignant dans la vie, vous voyez, hein, ça mène à tout. Hein. Donc on peut commencer sa vie professionnelle dans un domaine, et puis on peut bifurquer, et on peut changer d'orientation, surtout si on est insatisfait de son métier actuel ou si on se trouve dans une période de chômage. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et d'entrer dans une profession où on va pouvoir venir à l'aide du prochain. Et surtout si on est dans une œuvre évangélique, une profession où on va pouvoir aussi partager le message glorieux de l'Évangile. Donc voilà quelques-unes des expériences que j'ai pu faire dans cette action sociale. Mais on n'a pas, bien sûr, besoin d'être engagé dans un métier à temps plein pour pouvoir aider son prochain. On est tous appelés à le faire. Donc je voudrais, pour terminer, vous inviter à faire le point par rapport à cet enseignement de Jésus que nous avons lu. Suite à ce que nous avons lu, peut-être que certains qui sont là cet après-midi au milieu de nous vont en arriver à la conclusion, mais monsieur, c'est bien beau ce que vous dites, mais moi, je n'ai pas la foi. Mais si vous n'avez pas la foi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez l'avoir. Eh bien oui, parce que la foi, ce n'est pas comme les yeux bleus. Hein. Les yeux bleus, vous naissez avec et vous mourrez avec. La foi, non. La foi, c'est quelque chose que vous pouvez avoir. La foi, c'est quelque chose qui vient. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la foi, mais que vous avez envie d'avoir la foi, lisez la Bible. Priez. Demandez à Dieu de se révéler à lui. La Bible nous dit que Jésus est celui qui suscite la foi et qui la fait grandir. Donc j'ai une bonne nouvelle pour vous. Hein? Cette foi peut naître dans votre cœur si vous la cherchez en lisant la Bible et en demandant à Jésus de se révéler à vous. Deuxième possibilité, peut-être que certains me disaient, mais jusqu'à ce que je vous entende, monsieur Sanchez, je croyais avoir la foi, mais moi, je n'ai pas les œuvres. C'est grave, docteur ? C'est grave, monsieur Sanchez ? J'aimerais vous dire que c'est un peu grave quand même, hein ? Puisque la Bible dit, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Vous avez peut-être une croyance simplement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les démons aussi ont ce type de croyance et ils tremblent. Alors si vous êtes là, je vous inviterai à venir à Jésus pour qu'il ranime votre foi, ou plutôt qu'il vous donne d'acquérir la foi véritable, celle qui va mettre un feu brûlant dans votre cœur et qui va vous conduire à produire des œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui vont vous sauver, mais la vraie foi produit, elle, des œuvres. Et puis quelqu'un pourra peut-être me dire, « Ah, moi je fais beaucoup de bonnes œuvres, mais je reconnais que je n'ai pas une foi profonde. Pour moi, Dieu est encore un Dieu lointain. Est-ce que mes œuvres suffisent ?» Je suis désolé, non, vos œuvres ne suffisent pas. Dans l'Apocalypse, il est écrit par rapport à l'église de Sardes, et c'est Jésus qui parle, « Je connais tes œuvres. Tu sembles vivant, mais tu es mort. » Les œuvres ne valent rien s'il n'y a pas la foi, si elles ne sont pas suscitées par la foi. Alors je vous inviterai aussi à venir à Jésus pour qu'il vous aide à découvrir la vraie foi. Et puis j'espère qu'il y en a, et j'espère qu'ils sont nombreux au milieu de nous qui ont la foi, la vraie foi, et la foi qui produit des œuvres en faveur du prochain. Alors à cela je dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous en espérance de votre salut. Réjouissez-vous parce que un jour, le roi vous dira, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Réjouissez-vous et partagez votre foi autour de vous. Amen. Seigneur, nous te louons parce que tu nous avertis qu'il y a un au-delà, qu'il y a une éternité. Tu nous avertis que nous avons à nous préparer et tu nous dis aussi comment nous préparer. Ta parole est claire, ta parole est simple. Un enfant peut la comprendre et il peut expérimenter quelle est la vérité. Alors je te prie que par ton esprit, tu parles au cœur et tu donnes à ceux qui ne seraient peut-être pas encore prêts pour l'éternité à comprendre ce qu'ils ont à faire, à le saisir et à le vivre afin que la vie éternelle soit le partage du plus grand nombre de ceux qui sont dans cette salle cet après-midi. Amen. Amen.
Nos œuvres ne sont que le reflet de la merveilleuse œuvre de Dieu. Jésus arrive dans une ville, il rencontre une femme seule, veuve,